Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Baptiste Dussault. Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour.
Les auditeurs ne te connaissent pas encore, en tout cas pas sur le podcast, même si il est probable qu'ils te connaissent de ta réputation. Est-ce que tu peux te présenter en une minute ?
On va essayer. Ma réputation, je ne sais pas ce qu'elle est, mais merci. Donc, je suis Jean-Baptiste Dussault. Je me présente toujours comme extrême programmeur la plupart du temps, de 36 ans d'âge. Ce qui fait, je ne suis pas si vieux que ça, mais il paraît que dans le monde du dev, ça fait vieux. Mon parcours à moi, c'est que, ben, un peu comme tout le monde après, j'étais passionné d'informatique quand j'étais petit, j'ai essayé de faire des études pour ça, j'ai eu un parcours inversé où j'ai commencé par faire ma start-up, qui a lâchement échoué, j'ai été embauché chez un e-commerçant, j'ai fini par démissionner chez l'ESS2i, et j'ai fini par créer mon atelier logiciel qui s'appelait Arpinum, puisque la nouveauté de ma vie, c'est que Arpinum a fusionné maintenant avec une boîte plus grosse qui s'appelle LGO Group, où, attention si j'ai fulle sur eux, on bosse dans les crypto-monnaies et la seule qui existe et qui est vraie, qui s'appelle Bitcoin.
Et je suis tombé. Ça y est, ça envoie déjà.
C'est ça, ça envoie du lourd. Comme ça, tu viens de perdre tous tes auditeurs. Allez, encore un arnaqueur.
Non, même pas aller faire un peu d'Ethereum, non, ça, non.
Me lance pas sur Ethereum. Tout ceci, je suis obligé de le dire, maintenant je suis dans une grosse boîte. Tout ceci sont mes avis personnels qui n'engagent que moi. Ethereum doit s'effondrer, c'est mon avis.
C'est une très mauvaise idée. Ok, je pense qu'on a notre sujet de podcast sur les crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, ce que je te propose d'évoquer, c'est dans la préparation, c'est un sujet qui, moi, me tient à cœur et que tu as commencé à évoquer, qui était quelle est la responsabilité des développeurs et notamment quelle est la responsabilité des développeurs dans l'enjeu écologique auquel aujourd'hui on est confronté, auquel je pense qu'on a des sujets de lecture communs et on voit pas mal de gens aujourd'hui s'énerver, s'exciter, puisqu'on a dépassé la date on a bouffé toutes les ressources renouvelables de la Terre, donc maintenant on vit à crédit. Crédit qu'il faudra bien rembourser un jour, et ça sera probablement les générations futures qui devront le faire. Même si on ne sait pas dans quelle direction ça va, il y a rien de très bon qui émerge de toutes les études, et plus les études sont précises, et plus elles sont plutôt inquiétantes. Et du coup, moi, c'est quand même une question que je me pose souvent, c'est... En tant que développeur, comment j'agis là-dedans? Quel est mon rôle là-dedans? Et tu avais un premier argument que j'aimais beaucoup qui était de dire, bah, déjà, faisons gaffe aux ressources qu'on consomme, quoi.
Ben oui, effectivement, enfin, moi, personnellement, c'est le premier élément que j'ai trouvé, même si il peut paraître un peu, je ne sais pas, comme je disais, naïf. Mais c'est, enfin, personnellement, donc, en tant que dev depuis un certain nombre d'années, j'ai passé beaucoup de temps, comme tout le monde, à dire, s'intéresser aux performances de l'application, c'est de moins en moins important, parce que de toute façon, le software coûte plus cher que le hardware, et le hardware évoluant, j'aurai toujours des marges de manœuvre, et maintenant qu'il est devenu tellement facile de rajouter des serveurs à son problème, si jamais j'ai pas les performances dont j'ai besoin, il suffira que je clique et j'aurai encore plus de CPU à ma disposition. Du coup, ma réflexion personnelle, c'est de se dire, ok, sans que ça impacte, on va dire, de trop ma vélocité pour pas devenir paranoïaque sur les performances et faire de la pre-nature optimization, c'est comment je prends en compte que j'aimerais bien que mes applicatifs consomment moins de ressources, en fait. Donc ça, je trouve que ça peut s'appliquer donc côté serveur, comme je disais, sur est-ce que j'ai vraiment besoin de tant de serveurs que ça, est-ce que je pourrais pas faire entrer plus de choses dans un seul serveur, être plus performant. L'exemple que je te donnais, justement, c'est dans le monde de la finance et exchange traditionnelle, sans entrer dans les détails techniques, globalement, le matching engine qui va faire les ordres, il va manger des ordres de grandeur assez tarés, de l'ordre de 6 millions d'événements secondes, et tout ça, ça rentre sur un seul serveur. Je trouve ça assez intéressant de dire, d'autres auraient besoin de plein de machines pour ça, ben là, ça rentre sur un seul. Et comment pour amener ce style d'architecture ailleurs?
Oui, parce que tu me parlais de la plateforme, d'une plateforme pétrolière, là, dont Google avait fait un peu la pub sur Google I.O., et ben, il y avait une infrastructure de tarés pour gérer quoi, là?
C'est ça, faut que je retrouve le lien vers la conférence, mais moi je sais que quand je l'avais regardé, c'est ça qui m'avait un peu interloqué en fait, c'est qu'en gros c'est un groupe pétrolier qui voulait collecter toutes les datas, toutes les métriques qui viennent des sensors, des plateformes pour savoir ce qui se passe, et dans cette conférence ils disaient tout fièrement on est monté à 20 millions d'ingestion d'événements secondes, et pour arriver à ça ils avaient besoin d'une infra complètement tarée, un énorme cluster Kubernetes qui allait ensuite envoyer des choses dans PubSub, qui allait être mangé par d'autres choses, etc. etc. Et c'est pas le même genre d'architecture, mais c'est vrai que je m'étais un peu étonné sur, si tu regardes ce que dit, par exemple, quelqu'un comme Martin Thompson, qui est l'ancien CTO de LMAX, qui est un exchange assez connu. Voilà, c'est lui qui a inventé le style, qui dit, regardez, sur une machine, je fais 6 millions d'événements secondes. Et je me suis dit, OK, juste avec son bout de code, sur un seul serveur, il gère quasi la moitié de la charge de, eux, ils ont eu besoin d'une quantité astronomique de machines pour réussir à faire ça. Et du coup, ce qui est intéressant en plus avec l'archi, puisqu'on cite de Martin Thompson, c'est qu'elle n'est pas si compliquée que ça. Elle est à notre portée. C'est pas du développeur en assembleur slash C qui fait des trucs de magicien pour réussir à extraire le dernier percentile de performance. C'est relativement accessible. Enfin, quand tu utilises Célib, si tu veux le coder toi-même, c'est chaud. Et le point numéro 2, puis ça, je partais côté serveur, il y a aussi de 5 ans le côté mobile et device, où je trouve que ça se voit encore plus. Alors, c'est pas que notre faute, mais il y a cette course au rachat de tes nouveaux téléphones qui sont quand même des concentrés de matériaux rares. Et enfin, c'est un sujet qui a déjà beaucoup m'a parlé, mais cette idée que je trouve ça assez étonnant qu'un téléphone de 3, 4 ans, 5 ans d'âge ne marche juste plus. Et c'est même pas parce que il est cassé ou que vous avez une application qui consomme plus, c'est juste installer l'OS dessus et juste faire ce qu'il faisait très bien il y a 4 ans, lui est devenu inaccessible. Et je trouve pas d'explication rationnelle à ça, en fait, honnêtement, de me dire, comment ça se fait que si je prends un vieil iPhone 4, juste si je lui demande la base, faire tourner mes mails, ce genre de choses, il va pas très bien se passer. Les trolls diraient c'est la faute d'Apple qui fait exprès, peut-être, mais j'ai l'impression que c'est un problème général chez tous les constructeurs.
Ouais, c'est tout le monde qui est concerné. Je pense qu'il y a une espèce de quête à la puissance. Je pense qu'il y a un besoin chez l'humain de nouveauté qui amène, que les marketeurs ont bien saisi, qui amène justement un espèce de renouvellement. À chaque fois, on améliore les choses et du coup, à un moment donné, la gestion de la rétrocompatibilité, c'est pas anodin non plus. Donc, à un moment donné, le mec, ils se disent, pourquoi est-ce qu'on va s'ennuyer à assurer la rétrocompat de vieux téléphones? On fait plus, et puis c'est terminé, et tout le monde renouvellera, quoi.
Ça, je peux l'entendre, mais je me dis que nous, notre développeur, ce qui est peut-être à notre portée, c'est toujours sur cette question sur les performances, d'être moins paresseux, c'est pas le mot, parce que c'est assez négatif, mais un peu moins se reposer sur, imaginons, il y a quelques années, quand j'ai développé une application sur iPhone, je me disais, sur la génération courante, elle va pas super vite, mon appli, mais c'est pas grave, dans un an il y en aura un autre et personne râlera à ce moment-là et tout se passera très bien. Est-ce qu'on pourrait pas se fixer comme objectif de dire, vraiment mon application, si tout ce qu'elle fait c'est afficher des datas sans faire de 3D de la mort, etc., etc., est-ce que c'est bien normal? Est-ce bien normal qu'on se dise dans 2 ans c'est mort, elle ne fonctionnera plus, quoi?
Moi, j'ai envie de rebondir dans une autre direction, si tu veux bien, sur la. J'entends tout ce que tu dis, je suis d'accord. J'ai lu un article il y a pas très longtemps là-dessus où un gars disait, il faudrait que je le retrouve celui-là aussi, où le gars disait, c'est quand même incroyable. On est tous les moteurs à explosion, toute la mécanique, toutes les industries tendent vers une optimisation des ressources, vers un taux de rendement maximal. Et c'est comme si notre industrie, au contraire, s'en fichait complètement de ces considérations-là. Et gaspiller des quantités de ressources considérables, quoi. Ça m'avait laissé un peu perplexe, mais je trouve qu'il y a du sens dans ce qu'il dit. Sur quoi j'ai envie de rebondir, c'est quand tu dis finalement, d'un côté, il y a un gars avec un serveur, il a réussi à gérer un débit de taré, là où en face, il leur faut une ferme de serveurs, quoi. Moi, ça me fait penser. Au projet, je vois des gars des fois ils lancent des projets, ils partent tout de suite sur des archis microservices avec des tout de suite en fait une infra de fou, quoi. Il y a tout de suite 5-6 serveurs à mettre en route, juste à allumer pour faire un premier service, alors que les mecs, ils ont même pas encore un seul utilisateur, quoi. Puis dès qu'ils mettent en prod, il y a 100 utilisateurs. Et là, tu te dis, mais excusez-moi, mais what the fuck, quoi? Qu'est-ce que vous faites, quoi? Et après, les mecs, ils t'expliquent, oui, mais tu comprends, pour démarrer, pour développer la première brique, ça prend 2 semaines parce qu'il y a tout ça à mettre en place, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de cette espèce de mode? Moi, j'ai plutôt tendance à dire, le monolithe, c'est très bien. Et je sors du monolithe que quand je ne peux plus faire autrement. Parce que la première règle des archis distribués, c'est ne faites pas ça.
C'est ça, c'est la règle de Fowler, archis distribués, première règle, don't. Mais il a fait une mise à jour cet article pour mieux expliciter dans le monde des microservices qu'il en pense, mais je laisserai les auditeurs et auditrices aller lire l'article. Mais oui, ce que tu décris, ça fait sens parce que du temps d'Arpinum, effectivement, on était dans les quelques conférences qu'on pouvait faire sur la question, effectivement, on était très fan de mettre en avant l'approche, c'est pas nous qui avons monté le terme, je me demande si c'est pas Cyril Martraire qui m'avait donné en premier le monolith first microservice ready, si vraiment on veut utiliser les thème buzzwords. de manière très négative, on pourrait dire, si vous savez pas coder un monolithe proprement, vous n'obtiendrez pas des microservices propres. Vous obtiendrez un monolithe distribué. Et ça, vous voulez clairement pas avoir ça. Et un monolithe first, c'est très bien, parce que c'est plus facile à déployer, c'est plus facile à changer. Si on parle de domain-driven design et qu'on parle de bounding context, ça veut dire qu'il est plus facile de refactor nos bounding context. Mais un monolithe first, c'est quoi? C'est vraiment ça. C'est que si, allez, parlons Java. Si j'ouvre un monolithe first et que je déplie ma liste de packages, je veux voir en premier niveau mes différents bounding context et un main qui réussit à les lancer. Et le jour où je dis, tiens, j'ai trop de charges sur ce bounding context, bah, c'est une question de prendre le package, et ses tests, bien sûr, d'aller les mettre sur leur propre jar, de changer une interface de communication entre bounding context, et c'est marre, c'est bon, c'est réglé. Mais là, tu touches du doigt, je ne sais pas, le mal de la profession dont tout le monde parle depuis tant d'années sur... C'est pas un amour de la complexité, c'est un amour de l'outil ou un amour de la solution technique.
Pour du défi ça. Technique, je crois,
du
non?
Défi technique, tout à fait. Et c'est vrai que moi, tomber dans le domaine driven design il y a quelques années m'a aidé à comprendre que le code pour lequel je suis payé, si on parle de ça, c'est vraiment le code métier, c'est-à-dire le code qui résout le problème vraiment que le client a. Et que tout ce qui n'est pas métier, c'est, si j'exagère un peu, du gaspillage. C'est pas sur ça qu'on est payé, en fait. Je ne suis pas payé pour avoir un connecteur HTTP. Le client s'en moque. Je suis payé pour résoudre son problème. Et que si on inverse cette tendance de dire à la fois mon plaisir et à la fois ma capacité en tant que développeur professionnel, c'est de résoudre ce problème métier, alors on réussit petit à petit. Enfin, moi personnellement, petit à petit, j'ai réussi à perdre cet amour de la technique et de l'exploit que j'avais tant en début de carrière. C'est cette idée, comme dirait Arnaud, le maire, c'est il faut arrêter de cogiter dans l'espace du problème et enfin de l'espace de la solution et cogiter dans l'espace du problème qui nous est demandé. Je sais pas si ça fait très très sens, mais
pour moi ça en fait beaucoup. J'espère que ça en fera pour les auditeurs. Je te propose que ce soit le mot de la fin d'ailleurs.
Déjà 10 minutes, ça passe vite.
Ça en fait même 12.
Ah, autant pour moi, j'aurais dû lancer un chrono.
Non, c'est. Écoute, merci beaucoup Jean-Baptiste. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais, venir lire tes articles, c'est quoi le mieux? T'as un blog, une...
Ouais, alors comme je suis entre deux boîtes, comme je l'ai dit, c'est devenu compliqué. Twitter, c'est toujours le bon endroit. Je suis Body Splash depuis que j'ai 16 ans. J'assume ce nickname comme je peux. Je trouve ça très important dans mes autodérisions. Et sinon, mon médium est peut-être l'endroit où je serai le plus tenté d'écrire des choses dans les mois qui viennent, même s'il y a une probabilité que je dois me mettre à l'écrire en anglais, vu que je vais écrire des choses sur ce qu'on fait à LGO, et donc ce sera en anglais.
Ok, ça marche. Bah écoute, on mettra le lien dans la description. Encore merci d'être venu. Je t'en prie. Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié cet échange. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à venir rejoindre la communauté des artisans développeurs sur artisandeveloppeurs.fr. Et si tu es déjà membre, eh ben tu sais quoi, parle-en autour de toi, ça aidera à diffuser le message. Et plus on sera nombreux, et plus ça sera sympa. Je te remercie et je te dis à demain.